Vous êtes avec SBS French.
Les grands titres de ce dimanche 30 janvier, la Nouvelle-Galles du Sud annonce un programme d'assistance financière pour les entreprises dans le sillage de l'impact subit du virus Omicron. Au Canada, la colère des routiers face à l'obligation vaccinale. Ash Barty, qui vient de remporter hier soir la finale de l'Open d'Australie, a hâte de se reposer avant son prochain tournoi de tennis. Ash Barty est devenue la première Australienne en 44 ans à remporter l'Open d'Australie. L'Australienne Christine O'Neill l'avait remporté, je rappelle, en 1978. C'était la finale la plus attendue depuis près d'un demi-siècle et qui a vu Barty gagner avec une victoire en deux manches contre l'Américaine Danielle Collins en 1h27. Ce matin, Mademoiselle Barty a rencontré des membres des médias. Elle dit que la victoire a été une expérience incroyable et surtout grâce à son équipe.
It's been incredible, I think, to be able to celebrate with my team last night and really enjoy the experience together. It's been amazing, but I'm looking forward to a little bit of rest and just being able to let it soak all in because it's been an incredible fortnight for all of us and yeah, I couldn't be more proud of all of us.
Et la joie hier soir, quelques moments après la finale, on écoute à nouveau Ash Barty.
This crowd is one of the most fun I've ever played in front of, and you guys brought me so much joy out here today. You relaxed me, you forced me to play my best tennis, and against a champion like Daniela, I know I had to absolutely bring that today. So thank you so much for all of your love and support the last couple of weeks.
La pandémie de COVID-19 a 72 morts dans les deux États les plus peuplés d'Australie. À cause du virus, la Nouvelle-Galles du Sud a signalé ce dimanche 52 décès, tandis que le Victoria a signalé 20 morts. En Nouvelle-Galles du Sud, 13 524 cas de coronavirus ont été détectés, tandis que le nombre de personnes à l'hôpital a continué de baisser à 2663 personnes contre 2693 hier samedi et 2737 personnes vendredi. Le nombre de personnes en soins intensif en Nouvelle-Galles du Sud est de 182 personnes, c'était 186 hier. Il y a eu 10 589 cas de COVID-19 signalés dans le Victoria ce dimanche et 110 personnes dans les unités de soins intensifs. Un nouveau programme de soutien annoncé par le gouvernement de Nouvelle-Galles du Sud qui gardera les portes de nombreuses entreprises ouvertes selon Business New South Wales. Le gouvernement de Nouvelle-Galles du Sud a annoncé le financement estimé à plus d'un milliard de dollars à la suite de la montée subite d'Omicron avec des entreprises dont le chiffre d'affaires se situe entre 75 000 et 50 millions. De dollars qui devraient en bénéficier. Le financement, qui commence à partir du 1er février, comprend un paiement pouvant atteindre 5 000 $ par semaine pour les entreprises dont le chiffre d'affaires se situe entre 75 000 et 50 millions de dollars, qui ont subi une baisse de 40% d'affaires en janvier et prévoit de faire de même en février. Le programme sur la remise des frais et des charges des petites entreprises a été étendue à 3 000 $ et peut inclure 50% des coûts pour acquérir des tests antigéniques rapides pour le lieu de travail. Le chef de Nouvelle-Galles du Sud, Dominique Perrottet, était sur Sky News ce dimanche matin.
As we move through, there'll be less requirement for financial need. But when I look at the data that I've seen, when I look at the, some of the challenges we've had with businesses over the summer break, it makes perfect sense from my perspective to provide that support to businesses this time around.
All right, well, let me ask you briefly.
Le Premier ministre Scott Morrison a déclaré que la star du rap américain Kanye West devra être complètement vacciné s'il veut donner des concerts en Australie. Kanye West, lauréat d'un Grammy, a prévu une série de concerts en mars, mais il est largement connu pour sa position anti-vaccination et il n'a pas encore indiqué s'il est vacciné ou non.
The rules are you got to be fully vaccinated. They're the rules. They apply to everybody, as people have seen most recently. It doesn't matter who you are. They're the rules. Follow the rules, you can come. You don't follow the rules, you can't.
Au Canada maintenant, avec la colère des routiers face à l'obligation vaccinale, leur but est de manifester devant le Parlement pour exiger le retrait de la vaccination obligatoire lorsque leur camion rentre au pays en provenance des États-Unis. Un chauffeur de camion non vacciné s'attend à être interpellé en tentant de franchir la frontière.
Oh, I'm not vaccinated. So I left before the 15th of January. The rule in the States wasn't in place yet, but I have other friends that say even no vaccinated. Now, right now, the U.S. Customs, they're not enforcing that. So they're still going there. The problem is when we come back.
Environ 90% des camionneurs du Canada ont reçu deux doses de vaccin contre le COVID-19. L'Alliance canadienne du camionnage, the Canadian Trucking Alliance, qui représente quelque 4500 transporteurs, propriétaires, exploitants et fournisseurs de l'industrie, s'oppose à la manifestation. La crise ukrainienne maintenant, avec les chefs de la diplomatie française et allemande qui se rendront en Ukraine le 7 et 8 février prochain. Les précisions d'Oriane Verdier pour Radio France Internationale.
Les diplomaties allemandes et françaises seront donc à Kiev à la veille de la prochaine réunion prévue entre la Russie et l'Ukraine, encadrée par Berlin et Paris. La dernière a eu lieu il y a 3 jours. À cette occasion, les participants avaient appelé au respect inconditionnel du cessez-le-feu entre armée ukrainienne et séparatistes pro-russes dans l'est du pays. En annonçant son déplacement aujourd'hui, le ministre des Affaires étrangères français a d'ailleurs réaffirmé l'engagement de la France pour une solution diplomatique dans ce format dit de Normandie, des négociations quadripartites qui dure depuis maintenant 8 ans pour tenter de résoudre la crise ukrainienne. Jean-Yves Le Drian s'est entretenu aujourd'hui avec son homologue ukrainien. Selon ce dernier, les deux hommes auraient souligné l'importance de s'abstenir de mesures susceptibles d'alimenter l'anxiété. Parallèlement, la ministre française des Armées a déclaré aujourd'hui que la France se tenait prête à déployer des centaines de soldats en Roumanie si l'OTAN le décidait.
Le candidat vert aux élections présidentielles de 2022 en France, Yannick Jadot, a présenté hier sa République écologique, 120 mesures pour lutter contre le réchauffement climatique, comme l'explique Anthony Latier pour RFI.
C'est l'obsession de Yannick Jadot. Les Verts ne sont plus là pour témoigner, mais pour gouverner. Le candidat commence donc par prendre la défense des maires écolos qui sont déjà au pouvoir, comme ici à Lyon, et qui sont souvent l'objet d'attaques. Pour Yannick Jadot, les incompétents, les dogmatiques, ce ne sont pas les écologistes, mais ce sont ceux qui sont au pouvoir depuis des années, droite et gauche confondues, parce qu'ils ne font rien pour le climat. Devant 700 personnes, le candidat écolo décline donc quelques-unes des 120 mesures de son programme axées sur la défense du climat et la justice sociale. L'interdiction de la vente de voitures thermiques en 2030, l'arrêt de 10 réacteurs nucléaires, l'ISF climatique, les 10 milliards d'euros par an pour la rénovation thermique. Yannick Jadot s'en prend aux riches, aux lobbies et aux multinationales. Il veut porter le salaire minimum à 1500 euros net et réduire le temps de travail. À la sortie, Yannick Jadot est satisfait de son troisième meeting, plus à l'aise dans l'exercice. Et malgré les sondages qui stagnent, lui martèle qu'il est en train de monter en puissance et il compte sur son programme pour placer l'écologie au cœur de la campagne électorale.
Marine Le Pen a pris la parole hier après que des ténors de son parti sont partis rejoindre Éric Zemmour, candidat de l'extrême droite. La nièce de Marine Le Pen, Marion Maréchal, ne soutiendra pas sa tante. On écoute la réaction de Marine Le Pen.
Ceux qui veulent partir partent, mais ils partent maintenant. Parce que ce qui est insupportable, c'est la taqiya, en quelque sorte, qu'ils reprochent eux-mêmes aux islamistes, vous voyez. Voilà. Donc la taqiya, c'est la dissimulation. Donc moi, je considère qu'on peut, encore une fois, changer de camp, mais il faut le faire maintenant. Parce que nous avons 70 jours avant un événement majeur pour l'avenir des Français. Et avoir des gens qui, aujourd'hui, font semblant d'être ici, alors qu'en réalité, leur cœur ou leur esprit est ailleurs, c'est insupportable.
En Afrique maintenant, avec le Burkina Faso, avec l'arrivée de la délégation de chef d'état-major de la CDAO, quelques jours après le putsch qui a renversé le président Roch Kabore. Reportage de Pierre Pinto pour RFI.
La délégation arrivée en toute discrétion ce samedi dans la capitale burkinabé est conduite par Francis Béhanzin, commissaire paix et sécurité de la CDAO, et par le chef d'état-major ghanéen, le vice-amiral Seth Anohama, accompagné de ses homologues sénégalais et libériens. Ces émissaires sont venus à Ouagadougou pour évaluer la situation, selon une source diplomatique. Ils ont été longuement reçus au palais de Kossiam, la présidence burkinabé, par les nouvelles autorités, dont le nouvel homme fort du Burkina, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba. Selon un communiqué issu de la présidence burkinabé, la junte a expliqué aux émissaires de l'organisation communautaire que les récents changements politiques répondent aux attentes de la population en termes de sécurité, de refondation de la nation et des valeurs de la République. Fin de citation. Le général Béhanzin restera jusqu'à l'arrivée lundi d'une autre mission, conjointe celle-ci, ONU-CDAO, emmenée par le représentant spécial des Nations Unies en Afrique de l'Ouest, Mamad Saleh Anadif, et par la ministre ghanéenne des Affaires étrangères, Shirley Ayorkor Botchwe, accompagnée de plusieurs de ses homologues de la sous-région. De leur compte-rendu dépendront les décisions prises lors d'un nouveau sommet de la CDAO consacré au Burkina qui se tiendra jeudi à Accra, au Ghana.
En République démocratique du Congo, le verdict est tombé dans le procès de l'assassinat des experts de l'ONU, Zarida Catalan et Michael Sharp, tués en 2017. Analyse de Zéphirin Quadio et de Léonard Vincent pour RFI.
Ce samedi, à la cour militaire de Kananga, le procès du verdict a donc duré plusieurs heures.
Oui, c'est un verdict de 146 pages qui a été lu pendant 5 heures après 4 ans de procès, vous l'avez dit, mais qui soulève plus de questions qu'il ne donne de réponses, estime Thomas Fessy de Human Rights Watch, car si la cour militaire de Kananga a condamné les anciens miliciens impliqués à la peine de mort, c'est-à-dire de facto à la perpétuité au Congo, elle a jugé les preuves insuffisantes pour condamner le colonel Jean de Dieu Mambweni pour terrorisme, association de malfaiteurs et crimes de guerre, comme le demandait le ministère public. Celui qui était accusé d'être l'organisateur du piège dans lequel serait tombé l'Américain Michael Sharp et la Suédoise Zaida Catalan n'a été condamné que pour avoir prétendument désobéi aux ordres et avoir laissé les victimes se rendre dans un secteur qu'il savait dangereux. Son avocat, maître Daniel Makolo, contacté juste après le verdict, attend d'avoir pu voir son client avant de dire s'il fera appel devant la haute cour militaire de Kinshasa. Quant aux défenseurs des autres condamnés, ils n'ont pas voulu faire de commentaires. Human Rights Watch, comme l'ancien bâtonnier Dominique Kambala, ont aussitôt regretté que la cour n'ait pas cherché à remonter la chaîne de commandement, négligeant ainsi les responsabilités de l'État.
La reconnaissance du viol marital est débattue à la haute cour de New Delhi, en Inde, en ce moment. Les précisions de Com Bastin pour RFI.
Le code pénal indien considère que le crime de viol ne peut pas exister au sein d'un couple, le mariage équivalent à un consentement sexuel tacite. Mais depuis le 12 janvier, la haute cour de Delhi discute de mettre fin à cette exception à la demande de plusieurs associations. Parmi celles-ci, la fondation RIT, dont Chitra Awashti est la présidente.
En tant qu'acteurs de la société civile, nous sommes confrontés à beaucoup de cas d'abus sexuels au sein de couples mariés. Le problème, c'est que l'épouse a tendance à penser que c'est normal de souffrir et le mari qu'il a tous les droits. C'est pour ça qu'il faut faire du viol marital un crime puni par la loi.
Mais la cause a aussi ses opposants. Le gouvernement central indien a recommandé ce vendredi de ne pas suivre aveuglément l'Occident en criminalisant le viol marital. Motif, dans un pays aussi peu éduqué que l'Inde, cette loi pourrait être mal utilisée. À la barre ce jeudi, l'ONG Men Welfare Trust a affirmé que la reconnaissance du viol marital mettrait en danger l'institution du mariage et la liberté des maris. Chitra Awashti reste confiante.
Aujourd'hui, les gens échangent et débattent enfin de ce sujet tabou. C'est bien, car aucune loi ne peut être imposée sans que les mentalités évoluent par ailleurs.
Dans le monde, une trentaine de pays ne reconnaissent toujours pas le viol marital.
Les JO de Pékin, les athlètes français sont sur place. Et on ignore si la France va boycotter les Jeux sur le plan diplomatique, comme l'Australie, les USA, la Grande-Bretagne ou le Canada. Hier, il y a eu des rassemblements à Paris. Reportage Tanguy Roman Clavelou pour RFI.
Pas de droit, pas de jeu. Valentin répète les slogans en boucle Au milieu des quelques 200 manifestants réunis sur l'esplanade des Invalides, ce jeune étudiant de 23 ans est remonté.
On parle d'un génocide, on parle de 3 millions de personnes qui sont enfermées dans des camps, torturées, stérilisées. L'État français, il y a quelques jours, a avoué qu'il se passait quelque chose, mais ne fait rien.
Cette inaction, François, enseignant d'histoire, l'observe depuis plusieurs années déjà.
J'ai un t-shirt de Pékin 2008 où on manifestait déjà contre les Jeux Olympiques. Et c'est désespérant. Macron, je crois, a parlé une seule fois des Ouïghours.
Raphaël Glucksmann, député européen chef de file du mouvement Place Publique, souhaite un boycott diplomatique.
Il est inconcevable pour nous que la France envoie des représentants officiels assister aux Jeux Olympiques de Pékin. Aucun représentant d'une nation démocratique ne doit venir cautionner en fait l'opération de propagande du régime chinois.
Cette figure de la cause ouïghour en France veut aller plus loin avec des mesures supplémentaires.
Par exemple, le bannissement des produits de l'esclavage de nos marchés, c'est le devoir de vigilance des entreprises, c'est la mise sur la liste des sanctions européennes des principaux responsables du Parti communiste chinois et des entités qui esclavagisent les Ouïghours.
La France prévoit d'envoyer uniquement la ministre des Sports. Pour Emmanuel Macron, le boycott diplomatique n'aurait été qu'une mesure symbolique, sans efficacité.
On passe à la météo pour ce dimanche. En Australie, à Perth, il fera 36 degrés. Adélaïde, 33. Melbourne, 28. Hobart, 24. Canberra, 26. Sydney, 28. Brisbane, 30. Cairns, 30. Darwin, 31. Et à Alice Springs, maximal de 30 degrés. Un rappel des grands titres de ce 30 janvier avec la Nouvelle-Galles du Sud qui annonce un programme d'assistance financière pour les entreprises dans le sillage de l'impact subit du virus Omicron. Au Canada, la colère des routiers face à l'obligation vaccinale. Fin du journal et merci de rester avec nous.
En français? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/SBS French.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.